With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud. Bienvenue dans Minute Papillon, le podcast original de 20 minutes. Aujourd'hui, on va parler de l'égalité entre les hommes et les femmes dans le monde professionnel. Pour cet épisode, Marie Donzel, directrice associée du cabinet Alternego, experte des questions d'inclusion et diversité, particulièrement de celles en lien avec le genre. On va parler des réalités de cette égalité entre les hommes et les femmes au travail, d'inclusion, de droits des femmes, de politique de discrimination en faveur des femmes qui provoquent parfois un sentiment d'injustice, d'incompréhension, et se demander si la crise de 2020 va freiner, voire briser des carrières. Ma première question à Marie Donzel concerne le syndrome d'imposture. Les femmes seraient au travail frappées d'un déficit de confiance, d'un doute permanent, d'une peur de l'échec plus fort que les hommes. Des livres, des manuels, des articles proposent aux femmes de s'affranchir du regard des autres, de faire de leur faiblesse un moteur, d'apprendre à oser. Mais si le problème des femmes dans leur vie professionnelle n'était pas le manque d'ambition, mais le manque de considération, voire la dévalorisation de leur ambition ?
Votre question, elle est très importante parce qu'elle met les pieds dans le plat, qui est l'idée selon laquelle les inégalités professionnelles procéderaient principalement de déficiences psychologiques des femmes, alors avec plein de débats entre est-ce que c'est inné, est-ce que c'est acquis, qui sont des débats totalement inintéressants, puisqu'en fait, quand on interroge les femmes et les hommes sur la question du syndrome de l'imposteur, on se rend compte que effectivement les femmes expriment davantage que les hommes, à savoir à 66%, le fait qu'elles doutent de leurs compétences, là où les hommes l'expriment à 56%, mais qu'on monte à 70%, par exemple, chez les millennials. Donc, on voit bien qu'en fait, le syndrome de l'imposteur, c'est pas un problème psychologique ou psychologisant de confiance en soi qui empêcherait comme ça d'avoir de l'ambition, de se lancer, d'oser, etc. C'est un problème de contexte dans lequel on se sent en confiance ou pas. Et moi, je dis régulièrement et j'affirme avec conviction que la confiance en soi n'existe pas. Je refuse de parler de confiance en soi, en tout cas de manière isolée. J'assimile la question de la confiance à une métaphore qui est celle du trapèze volant. Concrètement, un trapèze volant, c'est quoi ? C'est un ou une acrobate qui va se jeter dans le vide à 6 ou 7 mètres de haut, mais à moins d'être complètement fou furieux, cette personne ne va pas s'amuser à ça si elle n'a pas d'une part été harnachée par des équipements de sécurité. D'autre part, en conviction et en confiance en l'autre acrobate qui va le ou la rattraper au bon moment avec le bon geste, et que tout ça se passe dans une structure, hein, c'est une métaphore circassienne, mais dans une structure qui est à la fois extrêmement solide pour pouvoir effectivement supporter le poids des corps, et en même temps agile pour pouvoir supporter la vitesse, la rapidité, l'agilité, l'ambition, bref, tout ce qu'on nous demande aujourd'hui. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, quand on me dit « le problème des femmes, c'est qu'elles manquent de confiance en elles », je dis « non, le problème, c'est que chacun d'entre nous est susceptible de manquer de confiance en soi, parce que de confiance en l'autre, et de confiance en l'entreprise, en la société, pour lui faire confiance. Arrêtez de dire que les femmes manquent de confiance en elles, faites-leur confiance et vous verrez qu'elles se font confiance.
On parle de l'égalité salariale dans le débat public, dans la société, dans l'entreprise. On parle de l'égalité homme-femme. Ces deux notions sont considérées comme des chantiers prioritaires dans plusieurs enquêtes et baromètres. Mais pourtant, quand on parle des manières de mettre en œuvre cette égalité salariale, cette égalité entre les hommes et les femmes, notamment par une politique de discrimination positive en faveur des femmes, là, il y a un ressenti très négatif. Il y a un sentiment d'incompréhension, il y a un sentiment d'injustice. Comment surmonter cet apparent paradoxe ?
Mais parce qu'en fait, le problème est mal posé. J'ai eu l'occasion d'avoir en formation, et je lui en suis encore gré, un jeune homme, la trentaine, qui a mis les pieds dans le plat. Et encore une fois, à chaque fois qu'on met les pieds dans le plat, au moins on pose les vraies bonnes questions, en disant, mais est-ce que dans cette boîte, il y aura encore de la place pour un homme blanc hétérosexuel valide de 40 ans ? Sa question, elle est parfaitement légitime parce qu'en fait, on lui a donné des règles du jeu. Et ces règles du jeu, c'est si tu valides bien les étapes du parcours, si tu te fais bien voir auprès du manager et si tu es là dans les couloirs encore à 18h30 tandis que les nanas sont rentrées s'occuper des petits, lui, de son côté, il est méritant. Mais là où le problème est mal posé, c'est de deux façons. C'est d'abord le fait que l'idée que les femmes vont piquer les jobs des hommes, c'est pas vrai. Ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir plus de compétition. Donc effectivement, les places, surtout aussi longtemps qu'on aura des organisations verticales où les places à responsabilité se raréfient à mesure que l'on monte dans la hiérarchie, oui, plus statistiquement, plus il y a de monde sur les rangs, moins il y a la possibilité d'avoir de la place. Et le deuxième point, c'est que effectivement, nous sommes à une époque où ce qui va faire la différence, c'est des compétences qu'on appelle volontiers les soft skills, que d'aucuns attribuent volontiers à des compétences dites féminines ou qui ont peut-être été davantage travaillées par les femmes à travers leur socialisation, etc., qui vont faire la différence dans cette compétition. Donc, le sentiment d'aigreur, il est parfaitement compréhensible. Et en même temps, il faut poser le problème autrement, c'est-à-dire qu'il faut poser le problème à cet homme blanc de 40 ans, valide, hétérosexuel, etc., etc., de comment est-ce que tu vas être un bon compétiteur dans un monde qui a changé, et pas comment est-ce que tu vas être comme papa dans les années 50, juste quelqu'un qui valide les étapes. Et ça, je trouve que c'est plus excitant.
Sur la notion des quotas, sur le concept de discrimination positive, des critiques disent « Ah, mais c'est un concept qui vient du monde anglo-saxon, des États-Unis, ça n'est pas notre culture. »
Déjà, je rappelle que quota n'est pas un mot américain, mais un mot latin qui signifie nombre et qu'on peut le traduire tout simplement par objectif. Et objectif, c'est la langue de l'entreprise. On se fixe des objectifs de part de marché, par exemple, pour diffuser un produit. Donc, à partir du moment où la conviction est acquise qu'une entreprise est plus performante, plus innovante, plus créative, plus résiliente quand il y a de la mixité, de la diversité dans sa gouvernance et dans ses instances décisionnaires, ben on se fixe des objectifs répondant à cet enjeu stratégique. Après, il y a un vrai fantasme, notamment français. Alors, en ce moment, on l'entend beaucoup avec la fameuse cancel culture, qui est très, très, très mal comprise en France, autour du fait qu'il y aurait une américanisation de la société, des gender studies, etc., et que on va aboutir au fait que les femmes et les hommes ne se parleront plus, ne pourront plus travailler ensemble, n'auront plus confiance les uns en les autres, voire qu'il va y avoir une inversion de la domination. C'est du fantasme et il appartient notamment aux dirigeants et à l'encadrement supérieur dans le monde de l'entreprise de faire tomber ce fantasme. Et puis, il faut qu'on ait confiance en nous aussi. Il faut qu'on ait confiance en notre culture française. On est quand même un confetti à l'échelle de la planète. Et rien que la francophonie, par exemple, nous fait démonstration du fait qu'on peut avoir un soft power incroyable. Je prends l'exemple de la francophonie, mais je peux prendre l'exemple de la loi Copé-Zimmermann.
Petite parenthèse, la loi Copé-Zimmermann, elle a été adoptée donc en janvier 2011. Elle oblige au respect d'un quota minimum de 40% de membres de chaque sexe au sein des conseils d'administration et des conseils de surveillance. Elle a d'abord visé des sociétés cotées et les entreprises de plus de 500 salariés, et elle a été étendue aux entreprises de plus de 250 salariés au 1er janvier 2020. Je ferme la parenthèse sur cette loi Copé-Zimmermann et je vous laisse parler.
Voilà, la loi Copé-Zimmermann, elle est aussi l'expression d'un soft power français à minima à l'échelle européenne, puisque par exemple, aujourd'hui, on a un réseau qui s'appelle TOUGAP, qui rassemble 37 réseaux mixité à l'échelle de l'Europe, dans les institutions publiques comme dans les entreprises privées, etc., qui veulent dupliquer ce modèle, puisqu'elle pose derrière la question aussi de savoir s'il faut maintenant passer au quota dans les COMEX. Et encore une fois, c'est le débat qui est intéressant. J'ai beaucoup accompagné les entreprises sur la loi Copé-Zimmermann. J'étais absolument pas inquiète sur les résultats que j'obtiendrais, parce que finalement, les conseils d'administration des entreprises que vous avez citées, sachant qu'on peut cumuler les postes d'administrateur ou administratrice, bon, il nous fallait trouver 200, 300 femmes, ce qui n'est pas violent dans un pays de 60 millions d'habitants, qui a quand même un niveau d'éducation très élevé et une population plutôt âgée, où donc ces postes-là, c'est plutôt autour de la cinquantaine, le début de la soixantaine qu'on les trouve. Donc, je savais qu'on les trouverait. Mais ce qui a été passionnant, c'est ce qui s'est passé derrière. C'est-à-dire que derrière, j'ai des clients qui m'ont dit « c'est qui les suivantes ?» Et sur les suivantes, on est tombé sur des cadras qui étaient dans les couches. Et les entreprises me disent « Ah bon, mais comment ça, les cadras sont dans les couches ?» Ben oui, parce qu'aujourd'hui, une femme qui veut faire carrière fait ses enfants au plus tôt à 38 ans, mais plutôt après la quarantaine passée, commence à gérer aussi la dépendance de ses parents. Si vous voulez avoir une nouvelle génération d'administratrices, une nouvelle génération de senior managers, une nouvelle génération de dirigeantes, eh ben, il faut changer vos façons de vous organiser. Il faut changer le regard sur la parentalité en entreprise. Il faut se transformer. Et c'est ça qui devient intéressant, parce que c'est le moment aussi où la question de la mixité amène à celle de l'inclusion, et celle de l'inclusion amène à celle de la transformation. Et il y a quand même aujourd'hui, par exemple, beaucoup de papas qui expriment le fait qu'ils rendent grâce à toutes ces politiques de mixité qui font qu'ils se sentent autorisés, même cadre sup, à prendre les 11 jours minimum, voire carrément le congé parentalité.
Depuis le déclenchement de la crise sanitaire, les confinements, la crise sanitaire qui s'est doublée d'une crise sociale et une crise économique, est-ce que avec cette crise, il peut y avoir un recul pour l'égalité homme-femme, un recul pour des jeunes femmes managers qui, à cause de cette crise, vont voir leur carrière retardée, voire brisée.
Il faut se souvenir quand même de Tata Simone, hein, Simone de Beauvoir, qui nous a prévenu qu'il suffirait d'une crise pour que les droits des femmes soient remis en question. Elle n'avait pas pensé à la crise sanitaire, elle avait pensé politique, religieuse ou économique, mais elle a entièrement raison, puisque on a vu effectivement que ce sont les femmes qui ont payé plus cher la facture. Alors sur des choses aussi anecdotiques, mais pas tant que ça, que la charge mentale des masques, la continuité pédagogique au moment du premier confinement, ou des choses un petit peu plus inquiétantes à mon sens, comme par exemple toutes les envies de changement de vie qui s'expriment aujourd'hui. Et on voit que c'est plutôt les hommes qui sont moteurs dans le couple. Si je fais de la caricature, pour aller faire un CAP de boulangerie et partir vivre à Tréfouilly-les-Oies, c'est sûr que ça m'inquiète pour la carrière de femme brillante qui, à la fois amoureuse, également en désir de changement de vie, etc., vont se retrouver quand même peut-être boulangère et puis voir leurs économies fondre au soleil et puis revenir dans 2-3 ans. Je ne présage rien de ce que sera leur couple, mais revenir dans 2-3 ans et avoir quand même peut-être du mal à retrouver du boulot et à valoriser une expérience qui sera pas forcément celle d'une reconversion ou d'un temps de vie à part, mais justement le fait d'avoir suivi un conjoint. Donc ça, oui, c'est une problématique. On voit d'autres problématiques, comme le fait qu'il y a plus d'appétence au retour sur site des hommes que des femmes. On est quand même dans cet environnement présentéiste où effectivement, pour plein de raisons, qui sont des raisons, et moi je ne porte aucun jugement là-dessus, longtemps j'ai été très anti-télétravail avant le confinement, en disant le télétravail pour les femmes c'est une énorme arnaque, parce que, alors J'ose plus le dire comme ça maintenant, mais au lieu d'aller fumer une cigarette ou boire un café avec les collègues pendant 10 minutes, on lance une machine pendant la pause. Il y a une espèce de confort piégeux dans le télétravail des femmes. C'est confortable parce que ça paraît plus confortable de lancer sa machine pendant la pause plutôt que le soir quand on rentre crevé et que toute la famille vous saute dessus. Et en même temps, c'est piégeux parce que c'est quand même le retour à la femme au foyer et à la double voire triple journée des femmes.
Merci à Marie Donzel pour cet entretien. Minute Papillon avec son point d'exclamation. C'est le podcast original de 20 minutes. Vous pouvez nous écrire à audio@20minutes.fr pour nous envoyer vos commentaires, vos idées, vos critiques aussi. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.